Le 3 février 1962. Conjonction des planètes. Aujourd'hui, Shubhra, Shanana. Hey Shubhra. Aujourd'hui, la 8e planète entre dans la même... Qui vole? Enfin, conjonction des 8 planètes. Correct? La Lune est la dernière qui arrive à la fin, en retard. C'est la dernière.
Cette entretien a commencé à propos d'une lettre que Mère a reçue d'une visiteuse qui se plaint des difficultés de son karma et qui parle notamment d'un karma collectif.
C'est une histoire qui est à moi. Je me suis demandé très souvent, n'est-ce pas, très souvent, si ça aidait les gens de savoir leur karma. Je ne crois pas. C'est-à-dire que s'ils trouvent eux-mêmes quelles ont été les expériences de leur vie antérieure, alors ça fait partie de tout un éveil intérieur psychique qui lui est très utile, mais que un gourou quelconque vient vous dire « Ah ça, ça a été votre karma ». Je ne crois pas que ça soit utile. C'est une façon atténuée de dire ma pensée. Si vous trouvez vous-même la courbe de votre vie antérieure, ça c'est différent. Ça fait partie d'un éveil psychique intérieur, ça c'est très bien. Mais que quelqu'un qui voit quelque chose vient vous dire « Ah, vous savez, vous avez dit ceci et cela, vous avez fait ceci et cela. » Je crois pas que ça aide. J'ai plutôt l'impression que ça augmente là. Ça vous remet en contact avec des choses que vous étiez en train d'éliminer de vous. Cette femme-là, un karma collectif, hein, ce sont des blagues, c'est une histoire. Ça peut exister pour certaines gens, mais pas pour celle-là. Si je ne l'avais pas vu, j'aurais pu me dire, ah, essayer de savoir. Un karma collectif. Naturellement, c'est tout ce qui vous lie à tous les gens que vous avez connus dans des vies antérieures. De cette façon-là, oui, il y a un karma collectif. Mais, n'est-ce pas, on emploie des grands mots et des grandes idées avec des choses tout à fait, au fond, qui sont tout à fait naturelles.
Ça m'a aidé de comprendre un peu ce qui s'est, pour moi, ce qui s'était passé.
parce que tu étais ici.
Oui.
Parce que avant qu'on te parle de karma, moi j'avais déjà vu des choses pour toi et j'étais déjà en train d'essayer de te libérer de ça. Pas de la chose elle-même, mais de ce qui restait dans la nature, n'est-ce pas? De la tendance qui restait dans la nature. Ça. N'empêche que Sujata était tout à fait libre de toute la partie, comment dire, malencontreuse, on peut dire, de son karma. Tout à fait libre. Parce que je connais bien les gens qui m'entourent et ce qu'ils apportent avec eux, et qu'il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une chose qui était restée, qui était la seule partie un peu constructive qui était restée, et que ça j'avais laissé, n'est-ce pas, tout à fait intact. Et que quand on lui a révélé, ou je ne sais quoi, c'est les événements de sa vie passée, j'ai eu le plus grand soin de détruire la révélation à mesure qu'elle a été donnée. Et ça d'une façon extrêmement brutale. Je n'ai pas voulu, je ne sais pas. C'était comme si on jetait un tombeau debout sur quelqu'un qui était tout à fait pur de tout ça. Alors je ne l'ai pas laissé, n'est-ce pas, ce qui est entré par le cerveau physique, pas, je n'ai pas pu l'empêcher, mais intérieurement, ça, c'est ce que j'ai fait avec d'une façon tout à fait catégorique. La seule chose que j'avais laissée, c'était la partie constructive du lien qui avait existé entre vous et que je n'ai pas touché et qui a fait que quand elle t'a rencontré, c'est tout. Ça, je l'avais laissé. Mais ça, c'était bien, c'était pur, c'était joli. C'était bien. Mais tout le reste, d'ailleurs, tu as vu avec quelle force j'ai protesté quand on m'a dit ça. On m'a dit qu'elle s'était suicidée. J'ai dit non, 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 non. Même si quelqu'un qui sait parfaitement me disait, je dis non. Elle est pure de ça, pure. Et je n'admettrai pas qu'on salisse quelqu'un qui est pur. Elle avait été suffisamment mon enfant pour que, après la mort, tout a été bien nettoyé, arrangé, remis en place, organisé, purifié. C'était quand elle est revenue propre. Je ne veux pas qu'on la salisse. Non, c'est pour ça que je dis, c'est à cause de tout ça que je dis que... Il y a une grâce qui agit et qui envoie promener ses karmas quelquefois très loin, très loin, et il n'est pas bon de les rappeler. J'ai eu des tas d'exemples comme ça. J'ai eu l'exemple de mon travail qui a été absolument barboté. N'aime pas ça. Encore tout dernièrement, il y avait la sœur de Karuna qui était arrivée ici parce qu'elle venait de perdre son fils, qui était mort. Ça venait d'arriver, c'était tout frais, il était encore là. Il n'était pas parti, il était encore là. Et alors j'ai tout arrangé, j'ai vu comment était la mère et... Tout ça, j'avais tout bien arrangé. Je l'avais gardé là, très soigneusement, et je lui avais dit que... je reviendrais rapidement dans quelqu'un de la femme. Et tout ça, c'était très bien arrangé. Mais naturellement, c'était contraire aux règles. Tout ce que je fais est contraire aux règles. C'est mon habitude. Autrement, ce ne serait pas la peine que je sois ici. Il n'y aurait qu'à laisser les règles continuer. Et alors, ils sont allés à Rameshwara, et ils ont répandu parler, ils ont parlé, et puis voilà, et puis alors, on a dit toutes sortes de choses. Et puis tout mon travail a été barboté. Alors maintenant, ça suit la règle habituelle de ceci, de cela, et cela, et comme ça que ça doit être tout mal. Moi-même, n'est-ce pas, j'ai appris des tas de règles que je ne savais pas, Dieu merci. La grâce divine m'avait sauvé de tout ce fatras, toutes sortes de règles sur comment ça se passe et comment ça ne peut pas se passer, comment ça doit se passer, comment... Oh, Seigneur Dieu! Je voyais les choses très simplement, n'est-ce pas, sans règles dans mon cerveau, et puis je le faisais très simplement aussi, sans règles dans ma tête. Ça marchait très bien. Très bien. Je rencontrais aucune difficulté. Les choses se faisaient tout naturellement, très simplement. Il fallait qu'on vienne me dire « ça peut pas ». J'ai dit « je regrette, c'est comme ça que ça a été fait. Ça peut pas. » Il a dit « oh, ça peut ». D'ailleurs, si tu te souviens du commencement de Savitri, que je n'ai lu que tout dernièrement, que je ne savais pas aussi, je n'avais pas lu ça aussi. Mais dans Savitri, dans le deuxième canto, quand il parle de Savitri et qu'il dit qu'il est venu pour envoyer, il le dit poétiquement pour envoyer promener toutes les règles, toutes les interdictions, toutes les règles, toutes les relois rigides, toutes les portes fermées, toutes les impossibilités, et pour défaire tout ça. Mais moi c'était mieux, je ne savais pas les règles. Alors, Je n'avais même pas à me battre contre, je n'avais qu'à les ignorer. Alors, elle n'existait pas. C'était nous. Maintenant, il faut que d'abord je défasse et puis après que. Tout à fait inutile, du temps perdu. Il y avait tout un monde de difficultés que je ne connaissais pas. C'était dans le mental inférieur. Vital, je connaissais. Parce que j'avais eu à me battre, mais ça, c'était bien. Cette fois-ci, on m'a donné comme être vital un guerrier, figure-toi. Un guerrier, un sexué magnifique, il est splendide. Ce n'est ni un homme, ni une femme, c'est un guerrier. C'est un guerrier et... Il est aussi grand que la chance. La première fois que je l'ai vu, j'étais contente. J'ai dit, bon, ça vaut la peine. Ça, oui, là, il y a des batailles. Ah, à ce propos, comment sont tes nuits, mon petit? Parce que c'est justement, je t'ai donné en charge à mon guerrier.
Ah ben ça va mieux, enfin, c'est plus conscient.
Hein?
C'est plus conscient.
C'est plus conscient.
Oui, ah, c'est oui. Plus conscient.
Ça, c'est bien.
J'ai été dans un état intérieur pas très fameux, alors je n'ai pas bien profité, mais.
Ah.
Mais c'est plus conscient.
C'est justement lui qui me fait souvenir. Je t'ai mis en chat.
Bon, je suis content. Non, ça me. Je vois que la conscience est plus suivie. Non, c'est très net, c'est très net. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'aide à être conscient.
Oui.
Là où je vais, c'est pas très fameux ou pas très intéressant, mais enfin, ça
viendra. Ce qu'il faut, c'est devenir conscient de ses activités et le maître de ce que l'on fait. Voilà. Alors, mon petit, tu as apporté quelque chose?
Oui, il y a différentes choses.
Je suis d'une paresse. Tu as apporté la question?
J'ai pas vraiment trouvé de question. J'ai pensé.
Moi, j'ai regardé, j'ai rien trouvé.
J'ai pas vraiment trouvé de questions. On peut poser des questions, mais j'ai rien trouvé de.
Oui, dis-moi ça.
Bon, j'ai rien mis, j'ai rien noté. L'aphorisme est ceci: une pensée est une flèche tirée sur la vérité.
Oui.
Elle peut frapper en un point, mais non couvrir la cible oui. tout entière. Et l'archer est trop satisfait de son succès pour en demander davantage.
Oui.
On peut évidemment.
Mais c'est évident! C'est tellement évident pour nous.
On peut demander seulement qu'est-ce qu'il faut faire pour couvrir la cible tout entière.
Ne plus être un archer. Non, c'est justement l'image ne tient plus. L'image est très jolie. C'est bon pour les gens qui sont justement dans cet état où ils s'imaginent qu'ils ont découvert la vérité. C'est bon à dire pour ceux qui croient qu'ils ont trouvé la vérité parce qu'ils ont touché un point. Mais... Nous avons tellement dit autre chose. Non, l'image est jolie. C'est une image, n'est-ce pas, comme ce que l'on peut dire, ah oui, vous êtes comme l'archéquie. Voilà.
On peut se demander si, du jour où on est capable d'embrasser toute la cible, c'est-à-dire de connaître tous les points de vue, l'utilité de chaque chose, dans quelle mesure on peut agir dans ces conditions, puisqu'on voit que tout est utile, tout a sa place. Tout est... Pour agir, on a besoin d'être en quelque sorte exclusif, on a besoin de... Non. On a besoin d'être combattif.
Je ne sais pas, parce que moi je n'aurais rien à dire, parce que c'est justement, tu sais, quand ce sont des pensées qui s'opposent, comme l'histoire de ce philosophe qui habitait le sud de la France, je ne me souviens plus son nom, un homme très connu, qui était professeur dans une université de Montpellier et qui habitait dans les environs. Et il y avait plusieurs routes qui conduisaient à l'endroit où il habitait. Et cet homme, par sortie de son université, et devait rentrer chez lui. Et alors il arrivait au carrefour de ces routes, d'où partaient plusieurs routes qui toutes aboutissaient l'une de ce côté, l'autre de ce côté, l'autre de ce côté. Et il disait lui-même que tous les jours, il s'arrêtait devant ce carrefour et il se demandait laquelle je vais prendre. Et alors chacune avait son avantage et son inconvénient. Et alors, et tout ça passait dans sa tête, l'avantage et l'inconvénient et ceci. Et puis alors, il pensait à tout ça et il perdait une demi-heure à choisir la route qu'il allait prendre pour aller. Il donnait ça comme un exemple de l'incapacité de la pensée dans l'action. N'est-ce pas? Que si on se met à penser, on ne peut plus aller. C'est très bon ici, là, sur ce plan-là. Mais ce n'est pas vrai là-haut. C'est tout le contraire. Justement, quand on n'est plus, n'est-ce pas, tant qu'on est l'archer et qu'on touche un point, toute l'intelligence qui est dessous est comme ça. Elle voit toutes sortes de choses, mais alors comme elle voit toutes sortes de choses, elle ne peut pas choisir pour agir. Mais pour voir toute la cible, pour voir la vérité tout entière, faut passer de l'autre côté. Et quand on passe de l'autre côté, ce n'est pas une addition de vérités multiples que l'on voit. Ce n'est plus une quantité innombrable de vérités qui s'ajoutent l'une à l'autre. Ce qui est impossible, et c'est toujours, n'est-ce pas, l'un après l'autre. On ne peut pas saisir le tout d'un seul coup. Tandis que quand on passe en haut, c'est le tout que l'on voit d'abord. C'est le tout qui se présente d'un seul coup, tout entier, dans l'ensemble, sans division. Et alors, ce n'est plus un choix que l'on a à faire. C'est une vision que l'on a, c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas le choix entre ceci, ou cela, ou cela, ou cela, parce que ce n'est plus comme ça. Ce ne sont plus des choses qui sont, comment est-ce qu'on dit ça, le contraire simultané des choses.
Successives.
Hein?
Successives.
Successives, oui. Ce ne sont plus des choses successives, n'est-ce pas, que l'on voit l'une après l'autre. ce sont des choses, c'est une vision simultanée d'un ensemble qui est un ensemble qui existe comme une unité. Et alors le choix est simplement une vision. Et tant qu'on n'est pas dans cet état-là, on ne peut pas voir le tout. On ne peut pas voir le tout d'une façon successive. On ne peut pas voir le tout en ajoutant une vérité à deux. C'est justement l'incapacité du mental. Le mental ne peut pas. Il verra toujours d'une façon successive, ça sera toujours une addition. Et ce n'est pas ça. Quelque chose échappera. Le sens même de la vérité échappera. Ce n'est que quand on a la perception globale, simultanée, de la, du tout, dans une unité, alors on peut avoir la vérité dans son ensemble. Et l'action qui n'est plus une justement un choix sujet à erreur, à rectification, à discussion, mais la claire vision de ce qu'il faut faire, qui est infaillible. Non, moi, cette question-là, ça nous ramène ailleurs. Ça suffit pas, ça?
C'était si. Non, je voudrais te demander quelque chose.
Hein?
Je voudrais te poser une question.
Ah.
Au sujet de mon japa. Est-ce que tu as l'impression que ça me conduit quelque part? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça a été le sujet de... Comment appeler ça ? Mon étude ces deux derniers jours. Pas toi en particulier. Le fait du japa, la raison du japa, l'organisation de la vie, je ne peux pas dire que je fais des découvertes, hein? Parce que c'était peut-être pour moi des découvertes, je ne sais pas. Mais c'est par là, c'est ici que ça se passe, que ça s'est passé, l'étude. C'est très long à raconter tout ça. Je peux résumer. Je ne veux pas... Comment dire ? faire une doctrine avec. Et pour que ce soit vivant, ça c'est long. Depuis quelque temps, j'avais rencontré des difficultés. Le matin. C'est compliqué. Enfin, des choses qui semblaient vouloir intervenir et ou m'empêcher d'aller jusqu'au bout ou me plonger dans une sorte de transe, n'est-ce pas? Qui est arrêté. Alors je me suis questionnée. J'ai voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'était? Ça a été long. Mais le résultat était comme ça. Tout ça, regardé purement au point de vue corporel. Je veux dire, ça ne concerne pas l'être qui est conscient, vivant et indépendant et qui serait identique sans le corps, n'est-ce pas? L'être dont la vie, la conscience et l'indépendance et l'action ne dépendent pas du corps. Voilà la phrase exacte. Je parle de ce qui dépend du corps pour se manifester. Parce que c'était seulement ça qui était en question. Comme une sorte de perception d'une variété d'activités corporelles. Toute une série d'activités qui sont, du moins dans leur apparence, exclusivement occupés de la conservation, du maintien, de l'entretien du corps. Il y en a qui sont à la bordure, n'est-ce pas, comme le sommeil, par exemple. Il y a toute une partie qui est nécessaire pour le bon entretien du corps, mais il y a toute une partie qui met le corps en rapport avec les autres parties et les autres activités de l'être. Mais il y a une partie du sommeil qui est exclusivement pour le maintien de l'équilibre. nourriture, toilette, etc., etc. C'est un ensemble. Et alors, la vie spirituelle, d'après Sri Aurobindo, ne doit pas supprimer ces choses. Tout ce qui est indispensable pour le bon entretien du corps doit être maintenu. Tout le reste des activités du corps. Pour l'homme ordinaire, c'est utilisé pour son plaisir et son profit personnel. La différence avec l'homme spirituel, c'est que il a donné son corps au divin comme un serviteur pour que le divin l'utilise pour son travail et peut-être, si on va dans la ligne de Sri Aurobindo, pour sa propre joie. Mais ça, dans l'état où est la matière et où est notre corps, ça me paraît douteux, ou en tout cas, très intermittent et très partiel. Parce que ce corps est plus un champ de misère qu'un champ de joie. Tout ça, je parle au point de vue, n'est-ce pas? Tout ça est basé pas sur spéculation, mais sur mon expérience personnelle. Je raconte mon expérience personnelle. Mais travail, alors ça, c'est différent, plein jeu. Ça, c'est la joie du corps, c'est son besoin, c'est ça, n'est-ce pas? C'est n'exister que pour le servir. N'exister que pour servir. Et naturellement réduire tout le côté entretien au strict minimum et en essayant d'y introduire une façon de faire participer le divin aux possibilités très, très réduites, très limitées, très maigres de joie que peut donner cet entretien. C'est seulement ça qui peut... C'est une association du divin et de ça à ses mouvements et à toutes ces choses, n'est-ce pas, comme... la toilette, le bain, etc., n'est-ce pas, et le sommeil. Le sommeil, c'est différent. Là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Mais surtout la toilette et la nourriture, n'est-ce pas, et toutes les choses absolument indispensables. Y associer la présence divine pour que ça soit la joie divine qui s'exprime autant que possible. Il y a, dans une certaine mesure, il y a réalisation. Alors, où se situe le japa dans cette affaire? Le japa, comme la méditation, (rire) est un procédé qui paraît être le plus actif et le plus effectif. Le procédé pour joindre autant que possible la présence divine à la substance corporelle. C'est la magie du sang, n'est-ce pas? Naturellement, si on y ajoute la conscience de l'idée, et qu'on fait son japa comme une invocation consciente, très active, alors ça multiplie beaucoup son effet. Mais la base, c'est la magie du sang. C'est une expérience faite et qui est vraie. Qui est tout à fait vraie. Par exemple, le son. Oh, n'est-ce pas? Ça amène des vibrations qui sont tout à fait particulières. Il y en a d'autres sons comme ça, mais celui-là, naturellement, c'est de tous le plus puissant. Alors, c'est un essai de diviniser la substance. Ça peut un point de vue, comment dire, tout à fait voisin, c'est de remplir l'atmosphère physique autant que possible de la présence divine. Alors, le temps que l'on passe à ça est un temps consacré à aider la substance matérielle à entrer plus intimement en rapport avec le divin. Si on y ajoute un programme mantrique, n'est-ce pas, de développement personnel, comme je fais moi, n'est-ce pas, c'est-à-dire une sorte de prière ou d'invocation de le programme, pour ainsi dire, de développement personnel et en même temps d'être collectif, alors ça devient vraiment un travail actif. En plus de ça, il y a le travail que j'appelle extérieur, qui est le contact avec les gens les lettres lues et répondues, les gens vus et à qui on parle, et finalement toutes les activités concernant l'organisation et l'organisation et le fonctionnement de la chambre. Dans la méditation, ça devient mondial. Mais pour le moment, physiquement, matériellement, ça s'est limité à la chambre. Ce qui fait que après une étude très approfondie, je suis arrivé à la conclusion que j'ai vu là-dedans, dans mon étude, j'ai vu la position de Pandiji, des gens comme lui, de ceux qui passent leur vie, pour ainsi dire, dans ils ajoutent à la méditation et au japa, ils ajoutent le puja, à toutes les cérémonies. Je parle que des gens sincères, je ne parle pas de ceux qui prétendent. C'est leur façon de travailler pour le monde, n'est-ce pas? De servir le divin. Pour eux, ça leur paraît être la meilleure façon, ou peut-être même la seule. Mais ça, c'est une question de croyance mentale. Mais au point de vue occupation, il est évident que le, même un peu de, pas positivement de puja, mais d'une sorte de cérémonie que l'on se donne à soi-même. C'est-à-dire des gestes habituels qui sont symboliques et expressif d'un certain état. Ça peut être utile aussi, et ça peut être une manière d'offrande et de relation, et par conséquent de service du divin. Je considère que c'est important vu à ce point de vue. Pas avec la vision traditionnelle, je ne peux pas la supporter, la vision traditionnelle. Je la comprends, n'est-ce pas? Mais elle me paraît un frein. Un frein au vrai don de soi, au divin. Mais le japa et les règles que l'on se donne, ou que l'on accepte, n'est-ce pas? Si c'est quelqu'un qui vous a donné le japa, les règles que l'on accepte avec son cœur et à qui l'on adhère. Les règles, c'est certaines règles qu'on se donne, il faut les suivre comme ça, comme un geste que l'on fait avec amour. N'est-ce pas? Comme une façon de dire je t'aime au divin. Tu vois, comme d'arranger les fleurs d'une certaine façon, d'allumer de l'encens, n'est-ce pas, de petites choses comme ça, qui sont jolies à cause de ce que l'on met dedans, et c'est une façon de se donner. Maintenant, je crois que si, en faisant le japa, on y met une idée, une volonté et une idée d'acquérir quelque chose par le japa, je crois que on abîme un peu. Voilà. Quand, n'est-ce pas, quand il est dit faites ça et puis vous obtiendrez ça, j'aime pas beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un petit peu comme un appât pour un poisson. Je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas beaucoup ça. Que ce soit votre manière de servir le divin, d'être en rapport avec lui, de l'aimer, de l'unir à votre vie physique, de faire d'être tout proche de lui et qu'il soit tout proche de vous. Ça, de cette façon-là, c'est joli. Comme ça, c'est bien. Comme ça. Que chaque fois qu'on dit le mot, on dit le mot comme une invocation. Ou bien, comment on répète un mot d'amour? Voilà comment je vois. Et alors, suivant sa mission dans le monde, la proportion entre ces choses, on doit la trouver soi-même. La proportion entre le travail extérieur, le travail intellectuel, le travail d'organisation, et ce travail-là, et les nécessités du corps, que l'on peut faire de la même façon en essayant que le Seigneur puisse trouver sa joie. N'est-ce pas? Je voyais ça, j'ai vu ça pour des détails, n'est-ce pas? Par exemple, faire que le bain soit une chose agréable, que le soin que l'on prend de ces choses, ceci ou cela, que ça ne soit pas, naturellement, il y a longtemps que ce n'est plus les idées idiotes, et cette espèce de petit plaisir personnel, ça c'est. Mais ça ne soit pas tout à fait une chose que l'on fait d'une façon indifférente et comme une habitude, comme une nécessité, que ce soit un peu de beauté, un peu de charme, un peu d'agrément pour le Seigneur. C'est tout. Voilà. Ça suffit? Non.
Si.
Mon petit. Tu sais, le diable m'a fait l'effet du moment où tout de la vie physique est exclusivement pour le Dieu. Un moment qu'on, n'est-ce pas, toute autre chose que le divin n'existe plus. Toutes les cellules du corps, toutes les secondes, tout ça est exclusivement pour le divin. Il ne reste plus rien que le divin. De cette façon-là, si on réussit ça, c'est bien. C'est bien. Je n'admets pas que ça soit exclusif au point que sur 24 heures, on soit 24 heures dans cet état, parce que ça, alors, ça vient de l'équivalent de la cétine. Mais une bonne dose, bien, et c'est bien. Et puis c'est presque comme le luxe de la vie. C'est comme ça que je dois ça. Le luxe là-bas, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ces vibrations divines autour de soi, dedans, soi, partout, il n'y a plus que la vibration divine.